Il est 17h ici à Paris, 11h à Washington. Bonjour à tous.
Karine Bellichat.
À la une, Harvard contre-attaque en justice après la décision prise par l'administration Trump de lui retirer l'autorisation d'accueillir des étudiants étrangers. Un manque à gagner énorme, une perte de rayonnement immense à l'international. La célèbre université vend debout. Dernier épisode de l'offensive de Washington contre les campus américains. À Gaza, les condamnations internationales n'y font rien. Benjamin Netanyahou continue son offensive meurtrière dans l'enclave palestinienne. Est-ce que des sanctions pourraient le faire plier? Est-ce que Paris l'envisage? La question a été posée à la porte-parole du gouvernement. Plusieurs pays européens tentent d'infléchir leur politique migratoire et d'expulser davantage de personnes en remettant en cause les principes fondamentaux garantis par la Cour européenne des droits de l'homme. Explication dans ce journal. Harvard ne compte pas se laisser faire après la nouvelle attaque de la Maison Blanche. La prestigieuse université américaine a déposé une plainte auprès du tribunal fédéral du Massachusetts. L'administration Trump compte lui retirer son autorisation d'accueillir des étudiants étrangers, soit un quart des effectifs du campus. C'est une nouvelle étape de franchie dans l'offensive du gouvernement américain contre l'enseignement supérieur, selon le français Vincent Ponce. Il est prix du meilleur économiste de France en 2023 et enseignant à la Harvard Kennedy School.
Il faut se battre d'abord parce que ces décisions sont illégales. Et puis, il faut se battre parce que ce qui est en jeu, c'est non seulement la recherche et l'enseignement à Harvard, mais c'est aussi la liberté de parole, la liberté académique. Et donc, l'enjeu dépasse très largement Harvard, puisque c'est aujourd'hui évident que l'administration cible Harvard pour envoyer un signal très fort aux autres universités et pour s'assurer que les autres universités restent dans le rang.
Alors qu'on parle d'un établissement privé, hein.
Oui, mais c'est un établissement privé qui, comme d'autres universités, est perçu comme un lieu de contre-pouvoir par l'administration républicaine. Et donc, elle s'y attaque de la même façon qu'elle s'attaque à des cabinets d'avocats et en fait à tout ce qui s'oppose à la dérive autoritaire que Donald Trump a débutée.
Le français Vincent Ponce, enseignant à la Harvard Kennedy School, interrogé par Vincent Souriau. Autre offensive de Donald Trump sur le front des droits de douane. Cette fois, le président américain repart à la charge et menace aujourd'hui de taxer à 50% dès le 1er juin les produits européens qui arrivent sur le sol américain. Les marchés financiers accusent le coup. Wall Street est en baisse dans le sillage des bourses européennes. À Gaza, la situation est toujours aussi critique. Aucune pause dans les bombardements. L'offensive israélienne se poursuit. Chaque jour, une organisation internationale exhorte Israël à cesser le feu. Cette fois, le chef de l'OMS prie les autorités de l'État hébreu d'avoir pitié de Gaza et de mettre fin à la destruction systématique du système de santé. Plus de 90% des hôpitaux sont endommagés ou détruits dans l'enclave palestinienne. La désapprobation internationale n'a aucun effet sur le gouvernement israélien. Est-ce que Paris pourrait passer à la vitesse supérieure et prendre des sanctions contre Israël? Écoutez la réponse de Sophie Prima, porte-parole du gouvernement.
Ce qui est déjà acquis, c'est qu'effectivement, nous avons arrêté de livrer un certain nombre de marchandises, notamment des équipements pour aller au combat. Il y a en négociation au niveau de l'Union européenne l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël qui va faire l'objet d'une attention particulière, notamment sur son article 2, hein, qui prévoit qu'il y ait des conditions qui soient conformes aux droits de l'homme, qui soient acquises pour permettre l'accord d'association. L'Union européenne va probablement prendre la décision qu'on est en dehors de cet article 2 et donc prendra des sanctions vers Israël. D'ailleurs, c'est ce qui a amené Israël à dire qu'il allait faire rentrer de l'aide humanitaire. Donc il y a une première brèche qui est très très insuffisante, mais nous irons jusqu'au bout de cela.
Est-il possible que la France rappelle son ambassadeur, par exemple?
Écoutez, pour l'instant, on n'en est pas là, mais il faut vraiment qu'on y arrive et qu'on désescalade cette violence qui est tout à fait inhumaine.
Sophie Prima, la porte-parole du gouvernement français, au micro de Victorin Villaume. Malgré les accusations de dérive dictatoriale et de conflit d'intérêts, Benjamin Netanyahou a aussi décidé de défier la justice. La Cour suprême israélienne avait jugé le limogeage du chef de la sécurité intérieure illégal. Le Premier ministre a décidé de passer en force en nommant un successeur à la tête du Shin Bet. Le général David Zinni, une ONG luttant pour la transparence, a immédiatement annoncé son intention de contester cette nomination devant la Cour suprême. C'était une demande américaine formulée par Donald Trump lors de sa rencontre avec Ahmad al-Shara. Le président syrien serait passé à l'action, selon plusieurs sources. Des chefs des factions palestiniennes proches de l'ancien pouvoir syrien et de l'Iran auraient remis leurs armes et quitté le pays. En Turquie, nouveau coup de filet de la police, 44 personnes ont été arrêtées en lien avec l'enquête pour corruption lancée contre le maire d'Istanbul. Le principal opposant au président Erdogan est incarcéré depuis 2 mois. Parmi les personnes interpellées figurent son secrétaire particulier et les présidents des conseils d'administration de 2 sociétés rattachées à la municipalité d'Istanbul. Pas d'avancée sur un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, mais les 2 pays échangent de nouveau des prisonniers, un échange qui s'annonce record. Moscou a déjà récupéré 270 militaires et 120 civils détenus par Kiev. Les autorités ukrainiennes confirment le nombre de prisonniers libérés par Moscou est identique. Au total, 1000 détenus doivent être relâchés de part et d'autre d'ici la fin du week-end. L'Italie et 8 autres pays européens ont publié une lettre ouverte appelant à repenser l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme en matière migratoire notamment. Ces pays disent vouloir retrouver un équilibre pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. Pour les ONG, cette idée est très préoccupante. Muriel Paraton.
Ce sont des pays comme l'Italie de Giorgia Meloni, avec une politique migratoire dure, qui ont signé cette lettre s'attaquant à la Convention européenne des droits de l'homme, ou plutôt à son interprétation. Ils estiment être trop contraints par la CEDH. Un argument irrecevable selon Isel Boali-Boucher, responsable de plaidoyer Migrations internationales pour l'ONG CCFD.
L'angle qui est pris, c'est de dire voilà, il faut que les États reprennent un petit peu la main et ne soient pas soumis au principe de la CEDH et donc des droits fondamentaux, en tout cas dans certaines situations précises, et notamment en l'espèce pour expulser des personnes étrangères. Mais en fait, ce qui fait la force des droits fondamentaux et de la protection des droits humains, c'est bien leur intangibilité. On ne peut pas dire qu'il y a des droits humains qui existent juste pour certaines catégories de population et puis pas pour d'autres, parce qu'en fait, on crée des brèches, des failles qui remettent en cause l'intégralité de l'édifice des droits humains.
L'ONG dénonce une volonté de certains pays européens de se déresponsabiliser et de vouloir à tout prix expulser les personnes étrangères vers leur pays d'origine ou vers des pays tiers, quelle que soit leur situation.
Le Pakistan a décidé de prolonger d'un mois la fermeture de son espace aérien aux avions de ligne indiens. L'Inde avait déjà pris cette mesure, elle s'applique jusqu'à fin juin. Le cessez-le-feu tient toujours entre New Delhi et Islamabad après une violente confrontation militaire au début du mois. En Corée du Sud, l'inquiétude du gouvernement est grande face au possible retrait d'une partie des troupes américaines de son territoire. Le Wall Street Journal affirme que l'administration Trump a l'intention de concentrer ses forces dans d'autres régions, malgré la menace nord-coréenne. La correspondance à Séoul de Célio Fioretti.
Un allié de moins en moins fiable, c'est ce que craint Séoul face au projet de son allié américain de retirer 4000 de ses 24000 hommes présents sur le territoire sud-coréen. Les forces armées américaines en Corée participent à l'effort de dissuasion face aux menaces d'agression de la Corée du Nord. Si la Corée du Sud participe au financement de ses troupes, Donald Trump avait déjà fait allusion à de multiples reprises de son souhait de faire payer Séoul un montant plus important pour le maintien de ses militaires. Le retrait potentiel de ses troupes, alors que la Corée du Nord se montre de plus en plus menaçante ces 2 dernières années, pourrait être une arme de négociation pour Donald Trump dans les discussions avec Séoul sur le prix de ses hommes. Pour l'heure, le ministre de la Défense sud-coréen souhaite rassurer en rappelant que l'alliance qui unit la Corée du Sud aux États-Unis depuis plus de 70 ans reste toujours aussi forte, mais pour combien de temps ? C'est Lio Fioretti, Séoul, RFI.
Et puis c'est la dernière ligne droite à Cannes. Le palmarès officiel sera connu demain soir. Aujourd'hui, les derniers films en lice pour la Palme d'Or sont présentés sur la Croisette, dont le long métrage des frères Dardenne, déjà couronné deux fois à Cannes. Voilà, maintenant c'est sur le Pont des Arts avec vous, Nathalie Amar. Bonjour.
Bonjour Karine Bellichat. Et on va aller à Cannes dans cette émission dans quelques instants. 17h10 à Paris.